RFI 7h30, à Paris 6h30 en temps universel. Le journal, Sébastien Duhamel.
Et à la une ce matin, deux personnalités convoquées par les autorités hier en RDC. Monseigneur Donatien de Cholet, secrétaire général de la CENCO, qui n'a pas répondu. Et puis Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire permanent du parti de l'ex-président Joseph Kabila, qui a répondu. Quant à lui, vous l'entendrez. De nouveaux bombardements au Soudan du Sud. L'armée du président Salva Kiir vise des positions des forces d'opposition loyales au vice-président Riek Machar. La ville de Nasir, dans la région du Haut-Nil, est au cœur de ces tensions. Accusé d'incitation à la violence pour avoir interviewé une voix critique du président Mnangagwa au Zimbabwe, le journaliste Blaise Mlanga reste en détention. Son sort inquiète les défenseurs de la liberté de la presse. Le Ramadan qui débute pour les musulmans du monde entier. Rencontre dans ce journal avec un imam d'un genre particulier, le docteur Mukhtar Abdarrahman Sakine, défenseur de l'environnement. Les produits agricoles du continent au salon de l'agriculture qui se referme aujourd'hui à Paris. Ils ont séduit ces produits africains. Ils ont séduit les visiteurs. Oui, vous l'entendrez également. Et puis une pièce de théâtre coécrite par des actrices amatrices en Côte d'Ivoire sur des problématiques bien féminines. En RDC, il était donc appelé à justifier une récente prise de position de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Mais pour une raison encore inconnue, le secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien de Cholet, n'a finalement pas répondu présent hier devant Jacquemin Chabani, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qu'il avait convoqué, tout comme il avait également convoqué une autre personnalité politique cette fois, à savoir Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire permanent du PPRD, le parti de l'ex-président Joseph Kabila. Emmanuel Ramazani Chadari qui était bien au rendez-vous lui et qui revient pour nous ce matin sur la teneur des discussions.
Il voulait avoir des précisions sur notre communication. Il a dit qu'est-ce que nous cachons dans notre communication. Et nous avons dit que nous communiquons pour la population. Nous communiquons pour que vous puissiez changer d'approche. Nous communiquons pour que le pays soit bien géré. Ils ont pris acte et nous avons aplani. Nous avons travaillé comme partie de l'opposition, comme on l'a toujours fait. Mais nous sommes toujours respectueux de la Constitution et respectueux des lois de notre République. Nous avons également insisté sur la mauvaise gouvernance qui caractérise ce régime finissant. Ils ont dit qu'ils ont beaucoup de problèmes à régler, mais ils nous ont promis qu'il faudrait que nous soyons patients parce que les choses peuvent s'améliorer d'un jour à un autre.
Emmanuel Ramazani Chadari au micro de Pascal Moulégois. La RDC et ce nouveau déploiement dans l'est du pays, dans la province de l'Ituri plus précisément, des forces ougandaises sont arrivées hier dans la ville de Mahagi, confirmé par le porte-parole de l'armée congolaise. Mahagi à quelques 150 km au nord de Bunia où des soldats ougandais avaient déjà été déployés il y a deux semaines. L'armée ougandaise qui lutte initialement contre les rebelles ADF élargit ainsi son théâtre d'action dans la région. La RDC encore avec l'opposant Seth Kikuni qui a retrouvé la liberté hier soir, détenu depuis août 2024. Le président du parti Piste pour l'émergence du Congo bénéficie d'une libération conditionnelle à la suite d'une grâce présidentielle, tout comme un autre opposant, Mike Mukebayi, libéré lui après une détention de près de deux ans.
RFI à Djouba, 90.4 FM.
De nouveaux combats cette semaine et un ultimatum désormais au Soudan du Sud. L'armée du président Salva Kiir a en effet bombardé des positions des forces d'opposition loyales au vice-président Riek Machar et des positions de la White Army, une milice communautaire qui soutient cette opposition. Épicentre aujourd'hui du regain de tension qui se confirme 7 ans après l'accord de paix de 2018. La ville de Nasir, dans la région du Haut-Nil, dans le nord-est du pays. C'est ici que l'armée lance un ultimatum à l'opposition qui affirme quant à elle rechercher l'apaisement. Florence Mietto.
Des barges militaires naviguant sur la rivière Sobat depuis Malakal, la capitale du Haut-Nil, sont au cœur des tensions. Envoyées par l'armée sud-soudanaise pour officiellement permettre une rotation de ses troupes basées à Nasir, elles ont été attaquées par la White Army vendredi dans le comté de Oulang. Assaut repoussé, affirme l'armée. Jeudi, Riek Machar a sollicité une rencontre avec le président Salva Kiir afin de, je cite, « discuter de la détérioration de la situation sécuritaire ». Mais la rencontre n'a toujours pas eu lieu. Et hier samedi, le porte-parole de l'armée a lancé un ultimatum aux combattants de l'armée de Riek Machar ainsi qu'à la White Army, qu'il accuse d'avoir, je cite, « déployé des unités lourdes d'appui au combat à Nasir ». Il menace, selon ses mots, de déployer des capacités de soutien aérien supérieures et mortelles. Un porte-parole du parti de Riek Machar condamne cette guerre de propagande et nie toute implication des forces de Riek Machar dans les combats opposant l'armée sud-soudanaise à la White Army et regrette que les forces armées unifiées prévues par l'accord de paix ne puissent pas être déployées à Nasir. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Une nouvelle candidature pour la présidentielle d'octobre au Cameroun. Au terme d'un congrès extraordinaire du SDF hier et sans concurrent, Joshua aussi a été investi par le parti d'opposition. Une candidature de plus qui semble donc effriter encore davantage pour l'heure l'idée d'un front unique de l'opposition camerounaise. Une charte de bonne conduite pour la campagne et la présidentielle qui s'annonce au Gabon. Une charte rédigée en amont de l'élection du 12 avril, présentée hier à Libreville par une formation politique, le Parti Patriotique Gabonais, et par une association, le Mouvement des Citoyens du Gabon. Une manière, selon les auteurs, de lutter contre le tribalisme, le régionalisme et la haine politique. Ils souhaitent faire signer cette charte à tous les candidats. Une affaire qui sonne comme une alerte sur la liberté de la presse au Zimbabwe. L'incarcération depuis le début de semaine de notre confrère Blest Mlanga, accusé d'incitation à la violence pour avoir interviewé un vétéran du parti au pouvoir, la ZANU-PF, qui se trouve être une voix critique du président Mnangagwa. Le journaliste a sollicité une libération sous caution, refusée vendredi par la justice. Correspondance régionale, Joséphine Klockner.
L'incarcération maintenue de Blest Mlanga est dénoncée par plusieurs partis d'opposition et la société civile comme une atteinte directe à la liberté de la presse. Le journaliste travaillant pour la chaîne HSTV est accusé par les autorités zimbabwéennes d'incitation à la violence pour la diffusion d'interviews d'un vétéran du parti au pouvoir, dans lesquelles ce dernier critique ouvertement le président de la République et appelle à sa démission. Tabani Moyo, directeur national de l'Institut des médias d'Afrique australe, s'inquiète d'une criminalisation du métier de journaliste.
Nous assistons au procès des médias. La preuve, c'est que l'État a appelé comme témoin le chef de la lutte antiterrorisme de la police, comme pour prétendre que le journalisme est désormais un acte terroriste, ce qui pour nous pose un problème majeur.
L'accès à l'information avait progressé après la chute du dictateur Robert Mugabe en 2017, mais la situation se détériore à nouveau depuis la réélection du président Emmerson Mnangagwa en 2023. Alors que la constitution zimbabwéenne garantit la liberté d'expression et celle des médias, des sections du code pénal sont de plus en plus fréquemment utilisés pour incriminer les journalistes comme Mlanga. Reporters sans frontières a déclaré vendredi que Mlanga avait été accusé à tort et a demandé sa libération immédiate. Joséphine Klockner, Johannesburg, RFI.
Les derniers hommages hier en Namibie à Sam Nujoma, père de l'indépendance et premier président du pays, décédé le 9 février à l'âge de 95 ans. Il a été enterré dans un mémorial situé près de la capitale, Windhoek. Allez, en ce début de Ramadan pour les musulmans du monde entier, RFI vous propose ce matin une rencontre avec un imam bien ancré dans son temps, le docteur Mukhtar Abdarrahman Sakine, enseignant-chercheur en sciences humaines et sociales à la faculté de N'Djamena au Tchad, titulaire d'un doctorat sur la pollution alimentaire. Il s'est donné pour mission de défendre l'environnement qui occupe une grande place dans ses prêches à la mosquée Al-Rama de Toukra. Et c'est Igor Strauss qui l'a rencontré pour nous.
Costume traditionnel et chaîche blanc sur la tête, l'imam rappelle certains fondements de l'islam.
Le Coran ici met en garde contre la destruction de l'environnement. Au moment de la prêche, donc j'ai dit toujours aux croyants, aux fidèles musulmans, donc de ne pas couper les arbres, donc et toujours on les sensibilise sur la protection de l'environnement.
Une sensibilisation qu'il mène seul à son grand regret.
En Yémena et aussi dans le Conseil supérieur des affaires islamiques, nous comptons aujourd'hui plus de 700 mosquées. Et je suis le seul imam qui espère, je peux dire, un changement climatique.
Il souhaite donc sensibiliser les autres imams, car pour lui, aucun doute.
Parmi toutes les religions, il n'y a pas une religion qui préserve la nature autant que l'islam.
Pendant tout le Ramadan, il prêchera donc pour la défense de l'environnement. Igor Strauss, N'Djamena, RFI.
Le rendez-vous du monde agricole en France, le 61e Salon international de l'agriculture, prendra fin ce dimanche à Paris. Plus de 600 000 visiteurs, plus de 1000 exposants venus du monde entier, parmi lesquels une dizaine de pays africains représentés. Et les produits du continent ont manifestement séduit dans les travées, comme l'a constaté Kpenaï Traoré.
J'ai pris du café du lac de Kivu pour ma mamie, qui est originaire du lac de Kivu. qui sentait très très bon.
J'ai vraiment aimé tout ce que j'ai trouvé là-bas parce que j'ai trouvé toute l'Afrique. En fait, j'ai fait des dégustations et puis je suis fier d'être africain.
La Côte d'Ivoire, c'était bien pour la danse. Trop bien.
Vous avez découvert des produits ?
Noix d'acajou au chocolat.
Chocolat.
Et moi, j'ai découvert le Maroc, un pays vraiment sympathique, avec du thé à la menthe et beaucoup de gâteaux aux amandes. Voilà.
Le petit dessert typiquement ivoirien que j'ai récupéré, c'est des beignets qu'on appelle Bofloto en Côte d'Ivoire, nappés de chocolat noir. Parce que c'est intéressant aussi de pouvoir voir et goûter les spécialités culinaires de chaque pays.
Voilà, bon, ça fait plaisir de voir des produits africains dans un salon international.
Il y a des choses qui vous ont plu à l'intérieur ?
Oui, il y a une société qui fait les chips de poulet. C'est ma première fois et j'ai goûté, j'ai bien aimé.
Les visiteurs du Salon de l'agriculture à Paris, un sujet qui sera approfondi dans l'émission Un jour au village avec Penaï Traoré à partir de 13h10 en temps universel. En attendant, 11 femmes dans un salon de beauté qui discutent et qui soulèvent des problématiques partagées par les femmes de tous horizons. Voilà le pitch de la pièce de théâtre Nos images d'Abidjan à Paris, coécrite avec des actrices ivoiriennes amatrices jouées sur les planches du Yelams, une salle de spectacle de la commune de Trècheville à Abidjan. Marine Janin a assisté à une représentation.
La pièce de théâtre va se passer dans un salon de coiffure. Donc imaginez-vous des Françaises et puis des Ivoiriennes dans un salon de coiffure. Aïe, c'est fort.
Pour son unique représentation, Nos images a fait salle comble. Un public composé majoritairement de riverains de Trècheville, poussé par la curiosité, mais resté tout au long du spectacle d'une heure qui raconte avec humour les injonctions parfois contradictoires faites aux femmes noires sur le chapitre de la beauté. Manal Kalouk est présidente de l'association C'est Nous.
La grosse problématique que tout le monde connaît, c'est la femme noire qui souhaite s'éclaircir la peau. Pas parce qu'elle se trouve moche, c'est parce que la société, les injonctions faites aux femmes dans le monde, de lui dire en fait que la peau claire, c'est être belle.
À toi, celle qui doute de sa beauté, écoute-moi bien.
Les actrices françaises sont restées 2 semaines à Abidjan en résidence avec les Ivoiriennes pour monter cette pièce de théâtre à partir de leurs expériences personnelles avec la metteuse en scène Mouna Belkhali.
Il y a eu un atelier d'écriture où elles ont toutes participé et ça a donné vraiment tous les monologues que vous avez entendus, ils ont été écrits lors de cette séance-là. J'ai réécrit mais en restant quand même très proche de ce qu'elles ont proposé, de leurs mots, de leurs paroles.
J'ai commencé à utiliser des produits éclaircissants à l'âge de 15 ans.
À la fin de la pièce, les actrices enlèvent leurs tresses et leurs perruques, révélant leurs véritables cheveux pour célébrer leur beauté au naturel. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Et même si l'hégémonie des standards de beauté occidentaux persiste en partie, eh bien, chaque femme africaine ou afro-descendante entretient un rapport différent à ses codes. C'est ce que nous explique ce matin la slameuse féministe ivoirienne Ami Slam. Pour elle, les motivations derrière les choix cosmétiques et capillaires sont complexes, en particulier depuis l'arrivée du mouvement Nappy qui prône le retour aux cheveux naturels.
Les standards de beauté occidentaux, si on peut les appeler ainsi, ne sont plus vraiment des standards de beauté occidentaux. Je suis certaine que si vous interviewez beaucoup de femmes, très peu d'entre elles vous diront qu'elles essaient de ressembler aux blanches. On me dira certainement que oui, elles le font de façon inconsciente. Oui, c'est possible qu'elles le fassent de façon inconsciente, mais aujourd'hui nous sommes à une époque où il y a eu une grande communication sur le cheveu naturel. Donc le mouvement Nappy, je pense que toutes les femmes noires connaissent ce mouvement. Pour certaines des femmes qui utilisent des perruques, elles utilisent par mesure de protection pour gagner du temps. Parce que le cheveu des femmes noires, c'est un cheveu qui nécessite beaucoup de soins et beaucoup de temps. Et du coup, la solution pour aller le plus rapidement possible, c'est généralement porter des perruques. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui utilisent des perruques parfois tressées, donc ce sont des codes à l'africaine. Moi, par exemple, je porte des perruques, mais tressées. Donc ce sont des codes africains que je reprends.
Ami Slam, pour refermer notre dossier signé Marine Janin. Notre matinale continue, bien sûr, sur RFI. Restez avec nous. Vous retrouvez tout de suite Julien Coquelle-Rohem.